Voici la traduction d'une conférence sur la guérison divine donnée par Curry Blake, responsable du ministère de John J. Lake aux États-Unis. Session 18 sur 19. Alors bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Avant que nous commencions la session, j'aimerais juste prendre un moment de prière, prier d'imposer les mains sur ces tissus. Que les gens vont utiliser par la suite pour la guérison. Alors, c'est bon parce qu'en même temps, vous allez apprendre comment prier de cette manière-là. Alors, il n'y a pas de grand secret ou de choses mystiques à ce niveau-là. C'est un exemple biblique. On nous dit que les mouchoirs de Paul, des tissus que Paul avait touchés, étaient utilisés dans la Bible pour la guérison des malades. Alors, on prenait simplement le tissu, les gens touchaient le tissu que Paul avait touché et les gens étaient guéris. Alors, c'est l'exemple que nous avons dans les Écritures. Alors, je vais simplement les prendre dans ma main. Et je vous rappelle que ce n'est pas, en fait, je n'enseigne aucune formule de prière aux gens. Donc, c'est seulement un exemple, si vous voulez. Alors, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, maintenant, par un acte de ma volonté et de ma foi, j'imprègne ce tissu de l'esprit, de la puissance du Dieu vivant. Et où il y aura la maladie, elle devra fuir. Et où il y aura des démons, ils seront chassés. Au nom de Jésus-Christ, nous relâchons la vie dans ces tissus maintenant. Et c'est au nom de Jésus-Christ que la volonté de Dieu soit accomplie au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que cela. Alors, si vous avez besoin de ces tissus, ils vont être ici disponibles. Alors, quelqu'un a une question, et cette question est, pendant combien de temps ces tissus peuvent être utilisés? Est-ce qu'il y a une date d'expiration? Alors, la réponse est non, il n'y a pas de date d'expiration. Et en ma connaissance, je n'ai jamais été informé que un des tissus pour lesquels j'avais prié ne fonctionnait plus. Alors, si pour une raison quelconque, le tissu ne fonctionne plus, alors vous pouvez vous-même prier à nouveau sur ce tissu-là. Et j'ai été témoin des miracles grandioses à travers des tissus de prière comme cela. Et en particulier, il y avait une personne qui avait la maladie d'Alzheimer. Et des amis ont simplement placé un tissu autour du cou de cette personne-là et il a été guéri instantanément. Et une autre personne avait un bras totalement paralysé et une dame a téléphoné à mon épouse qu'elle lui envoie un morceau de tissu comme ça parce que j'étais parti en voyage. Alors mon épouse est allée dans ma garde-robe. Elle a pris un de mes chandails, a coupé les manches et les a envoyés à la dame. Alors, lorsque la dame a reçu les manches de chandail, elle a attaché les manches au chandail de l'homme paralysé. Et il a porté ça toute la nuit. Et le matin suivant, son bras était complètement guéri. Alors, c'est des miracles extraordinaires. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Le même Esprit qui agit en vous. Mais maintenant que vous savez, vous devez le laisser agir à travers vous. Alors, nous allons prendre notre Bible. Premier livre de Samuel, chapitre 16. Nous devons aller assez rapidement, encore une fois. Commençons vers le verset 7, un peu avant. Verset 4, s'il vous plaît. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville l'accoururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Rappelons-nous ici que Samuel était allé là, dans cette ville, pour oindre celui qui deviendrait le prochain roi d'Israël. Et lorsqu'il a vu le fils aîné d'Isaïe, alors il s'est dit en lui-même, c'est certainement celui-là. Et le verset 7. « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, on va arrêter ici un moment. Il est dit que l'Esprit est venu sur David, qui s'est saisi de David à partir de ce jour-là et dans la suite. Alors, allons maintenant dans le livre des Juges, au chapitre 13 et le verset 24. Alors ici, la question de la naissance de Samson. Il est écrit, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makhanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. » Alors, notez ici qu'il est dit que l'Esprit commença à l'agiter. Il y a une différence entre David et Samson. Alors, l'Esprit est venu sur David et est demeuré par la suite. Mais sur Samson, l'Esprit commença à l'agiter, donc périodiquement, de temps à autre. Alors, la Bible dit que nous sommes comme David parce que l'onction abonde et que l'onction est venue sur nous et qu'il ne nous a jamais quittés. Mais l'Église agit comme si elle avait l'onction de Samson. Et cela n'est pas la bonne manière. Nous allons à l'Église et les gens vont vous demander comment c'était à l'Église. Ah oui, c'était bien. Ce n'était pas aussi bon que le mois dernier. Et il y a 3 mois, waouh, là, c'était merveilleux. Ah, cette journée-là, l'Esprit était tellement fort dans l'Église. Mais dimanche dernier, ce n'était pas vraiment comme ça. Ah, mais je me souviens, il y a 2 ans, lorsque l'Esprit est venu. Ah, j'aimerais bien que l'Esprit agisse encore comme ça maintenant. Et c'est comme ça que nous agissons. Mais ce n'est pas la manière dont nous devrions agir. Parce que Samson n'est pas un très bon exemple d'une personne qui agit dans l'onction de Dieu. Alors, allons dans le livre des Juges au chapitre 16. Alors ici, nous voyons l'histoire de Samson et Dalila. Nous connaissons déjà l'histoire. Samson est allé vers Dalila. Et les princes des Philistins ont essayé de la convaincre de leur livrer Samson, que Dalila leur livre Samson. Et ils lui dirent, « Dis-nous où est sa force, car nous ne pourrons jamais le vaincre si nous n'avons pas cette information. » Alors, on doit se souvenir que nous avons déjà vu que Samson n'avait pas l'apparence de quelqu'un qui était si fort. Parce que il avait vraiment eu l'apparence d'un homme excessivement fort, alors les princes de Philistins ne se seraient jamais demandé d'où lui venait la force, si c'était simplement ses muscles. Alors, il se serait simplement dit, c'est un homme très fort. Mais évidemment, il ne devait pas avoir une apparence, d'un homme très fort. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à Dalila de découvrir son secret. Alors, elle a commencé à demander à Samson, où se trouve ta force? Et Samson a commencé à lui donner des réponses qui n'étaient pas les vraies. Et au verset 6, Dalila dit à Samson, Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, Si on me liait avec sept cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Alors, nous devrions peut-être nous demander pourquoi Samson a-t-il laissé Dalila l'attacher comme ça? Premièrement, elle lui a demandé comment est-ce que je pourrais t'attacher et te dompter? Et il lui a donné une réponse. Et elle a fait ce qu'il lui a dit. Alors, en temps normal, on devrait se dire, Samson devrait peut-être avoir des doutes, non? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais pourtant, il n'a fait mine de rien, car il savait que cela était faux et que les cordes n'auraient aucun effet sur lui. Alors, il est dit au verset 8, alors plutôt au verset 9, Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Dalila dit à Samson, Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Alors, Samson lui avait dit de le lier. Elle l'a fait. Et rien ne s'est produit. Alors, c'était réellement pour se jouer d'elle. Et pourtant, Samson ajoutait. Verset 11. Il lui dit, Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec une chaîne de tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur. Et il lui dit, Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, Je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, plusieurs fois, les Philistins qui étaient en embuscade s'étaient jetés sur Samson. Et à chaque fois, ils s'étaient libérés de leur emprise facilement. Alors, à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur lui, il n'avait qu'à bouger un peu et tous les Philistins tombaient par terre. Donc, on pourrait associer cela d'une manière spirituelle, ou est-ce qu'on peut dire qu'il activait, le don de l'Esprit qui est en lui. Mais cette fois-là, alors il a voulu faire la même manœuvre, et il est dit qu'il ne savait pas que l'Esprit Saint n'était plus avec lui. Alors, il est allé pour se battre, il s'est bougé un peu, et il s'est jeté sur les Philistins. Mais cette fois-là, il n'avait plus la force qu'il avait auparavant. Ils l'ont pris et ils l'ont amené dans la ville de Gaza. Ils lui ont crevé les yeux et ils lui ont fait du mal et ils l'ont fait travailler à tourner la meule dans la prison. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Ses cheveux ont commencé à repousser, ce qui était le signe de son alliance avec Dieu. Sa force est revenue et il a tué plus de Philistins dans sa mort qu'il en avait tué pendant sa vie. Alors voilà toute l'histoire de Samson. Mais retournons maintenant au point que je veux souligner. Et il est dit ici que Samson ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Et cet esprit-là était l'onction de Dieu dans sa vie. Et nous avons lu aussi que l'Esprit Saint agissait sporadiquement, périodiquement dans la vie de Samson. Alors, il est dit que la manière que l'Esprit procédait, c'est qu'il agitait, Samson. Alors, on peut voir Samson tout simplement en train de s'agiter et tout à coup, l'Esprit, la force de Dieu commençait à se manifester. Alors, cette fois-là, cette dernière fois, Samson s'est agité comme les fois auparavant et il s'attendait à avoir la même force. Alors, cela nous révèle quelque chose d'important. C'est que Samson n'avait jamais, jamais auparavant vraiment ressenti l'onction de Dieu. Il n'avait jamais ressenti quelque chose qui pouvait lui affirmer que la force de Dieu était là et active. Parce que si c'était le cas, alors à toutes les fois qu'il a agi de cette manière-là, où est-ce qu'il s'agitait et tout à coup la force de Dieu venait sur lui, s'il avait ressenti une quelconque onction. Alors, la dernière fois, lorsque ses cheveux ont été coupés et qu'il a commencé à s'agiter comme les autres fois, il aurait su instantanément que l'Esprit Saint n'était plus avec lui, parce qu'il n'aurait pas ressenti ce qu'il ressentait auparavant. Alors, le fait que Samson ne pouvait pas discerner que l'Esprit Saint n'était plus en lui, il n'était plus avec lui, alors prouve que l'onction n'a pas une sensation particulière, ou encore prouve que nous ne devons pas nécessairement ressentir l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu n'est pas nécessairement quelque chose que nous devons ressentir. Alors, vous vous dites peut-être, alors qu'est-ce que c'est que cette sensation que je ressens de temps à autre? Alors, parfois, c'est seulement les émotions. Et parfois, oui, c'est ce que nous pourrions appeler la présence manifestée de Dieu. Mais la présence, cette présence manifeste de Dieu ne doit pas être confondue avec l'onction. Alors, nous attendons souvent à une sensation ou à ressentir quelque chose pour croire que nous sommes loin. Alors, souvenez-vous qu'est-ce que je vous ai dit à la dernière session. Comme nous avons vu que l'Esprit est venu sur Jésus parce qu'il était loin. Et nous croyons le contraire. Nous nous disons, « Je suis loin parce que l'Esprit est venu sur moi. » Et j'aimerais vous prouver maintenant que oui, l'onction existe, que oui, l'Esprit va venir sur nous. Alors allons ici dans le premier livre de Samuel, au chapitre 10. Alors nous avons ici l'histoire de Samuel qui va aller oindre Saül. Allons au verset 1. Alors ici, c'est le même Samuel qui plus tard est allé oindre David. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alors Samuel a pris l'huile, il l'a répandue sur la tête et lui donna un baiser sur le front, en fait, qui était un signe. Et il ajoute, L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et nous pourrions lire comme ceci, Samuel, en fait, par ce geste-là, est en train de dire à Saül, n'est-ce pas que la raison pour laquelle je commets ce geste-là, c'est que l'Éternel t'a oint, afin que tu sois chef de son héritage? Alors, voici, qu'est-ce qui s'est passé en premier? Il l'a oint avec de l'huile. Et il a dit, L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? Alors, la raison pour laquelle j'accomplis ces choses, parce que l'Éternel, c'est une question, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voilà la raison pour laquelle je te oins d'huile. C'est que l'Éternel t'a déjà oint. Et c'est la raison pour laquelle je viens te oindre physiquement avec de l'huile, qui en réalité était pour symboliser et reconnaître ce que Dieu avait déjà fait et l'onction qu'il avait déjà donnée à Saül. Alors Saül avait déjà été oint par Dieu avant que Samuel répande l'huile sur sa tête. N'est-ce pas exact? C'est ce que la Bible dit. Et au verset 2, nous lisons. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Alors, est-ce que nous réalisons à quel point cette prophétie était précise? Au verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibeah Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Nous devons saisir ce qui se produit ici. Vous avez Samuel qui a oint Saül avec de l'huile pour démontrer ce que Dieu avait déjà accompli en lui. Et il continue son chemin. Un groupe de prophètes rencontre Saül. Il s'approche de ses prophètes et il commence à prophétiser. Voici qu'est-ce qu'il est dit par la suite. Au verset 6, L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Alors Saül avait déjà été oint comme une confirmation de l'onction de Dieu que Dieu lui avait donnée. Alors il était déjà oint par Dieu et par la suite, il est dit que l'Esprit de Dieu allait venir sur toi, ce qui prouve que l'onction est déjà présente en lui avant que l'Esprit Saint vienne. Lorsque l'Esprit vient sur vous, cela ne vous donne pas l'onction, Vous êtes oint premièrement et par la suite l'Esprit vient sur vous. N'est-ce pas ce qui est écrit? Il faut croire ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Et cela est en parfait accord avec ce que Jésus a dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit vient sur nous parce que nous avons été oints. L'Esprit qui vient sur nous n'est pas l'onction. L'onction est abondante en nous, comme l'a dit l'apôtre Jean. Et dans le cas de David, il est dit que l'Esprit était avec lui et qu'il est demeuré avec lui. Alors, on voit qu'il y a une différence entre David et certains autres caractères de l'Ancien Testament. Mais cela nous démontre comment l'Esprit Saint agit. Alors, je crois que vous avez bien compris maintenant ce que j'essaie de vous communiquer. Alors, je vous ai donné le témoignage de Saül et je vous ai donné le témoignage de Jésus en Luc 4 et verset 18. Et je vous ai donné le témoignage de 1 Jean chapitre 2 verset 27. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui nie ce que je vous enseigne maintenant. Alors, nous devons accepter cette vérité. Alors, vous êtes oint par Dieu, premièrement, et l'Esprit vient par la suite. Alors, si on étudie le mot « onction » ou « de oindre », il y a plusieurs définitions que nous avons entendues. Mais pour bien comprendre la définition la plus exacte, nous devons aussi comprendre l'essence du terme « onction » et le pourquoi, à quoi servait l'onction. Alors, à chaque fois dans la Bible où on utilise le mot « oindre », et surtout dans l'Ancien Testament, et toujours dans le sens de mettre quelqu'un à part pour une utilité pour Dieu, pour un service particulier pour Dieu. Et en quelque sorte, de « oindre », c'est aussi de sanctifier, de mettre à part. C'est pourquoi, dans Jean 1, 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous êtes né de nouveau et que l'Esprit Saint est venu en vous et qu'il a recréé votre esprit, c'est à ce moment précis que vous avez été mis à part pour Dieu. Et c'est à ce moment que vous avez été oint comme fils et fille de Dieu. Et après que vous ayez été oint par Dieu, l'Esprit Saint est venu habiter en vous. L'onction de Dieu, la nouvelle naissance en Dieu et l'Esprit Saint ont fait de vous ce fils et cette fille de Dieu. Ce que nous appelons le baptême dans l'Esprit, lorsque l'Esprit Saint vient sur vous, c'est lorsque vous commencez à agir en tant que fils. La nouvelle naissance vous donne autorité. Le baptême dans le Saint-Esprit vous rend capable, vous donne de l'habileté. Et cette autorité et cette habileté que vous avez est assez grande pour complètement anéantir le diable, parce que nous savons, comme je l'ai dit, que le diable n'a même plus cette autorité qu'il avait auparavant. Alors, il n'est même plus question de votre onction, de votre autorité et habileté contre l'autorité et l'habileté du diable. Maintenant, vous marchez dans l'autorité de Jésus, avec l'habileté que vous donne le Saint-Esprit, avec la promesse de pouvoir complètement soumettre l'habileté qu'il reste au diable à ce moment. Et voilà le procédé, ce processus de l'onction et du Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Alors, je vous encourage à continuer d'étudier ce sujet dans la Bible. Et je ne m'attends pas à ce que vous bondissiez de joie et que vous ayez tout compris maintenant, mais je m'attends à ce que vous puissiez approfondir cette vérité. Cherchez dans la Bible. Et si vous êtes des étudiants diligents de la Bible, vous apprendrez à vérifier tout ce que l'on vous enseigne. Et si vous en faites la preuve, si vous analysez tout ce que je vous ai enseigné, et vous verrez à ce moment que vraiment ce que je vous dis est selon la vérité de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vraiment vous pouvez l'accepter. Et à ce moment-là, vous allez grandir, vous allez croître davantage en une seule journée que vous avez eu de la croissance pendant des années. Parce que vous allez commencer à partir de ce moment-là à accomplir et à agir avec la parole de Dieu plutôt que de seulement l'écouter. Et il y aura une nouvelle autorité dans vos paroles et vous aurez compris et assimilé que vous avez l'habileté de Dieu en vous pour être capable de vaincre n'importe lequel ennemi et de vaincre toute maladie et toute infirmité et que vous n'avez pas besoin d'attendre, vous n'avez pas besoin de jeûner davantage et prier davantage, c'est déjà là. Alors la chose la plus extraordinaire à propos de cela et le plus grand effet que cela aura dans votre vie, en plus de pouvoir guérir les malades, et que cela va amener un changement extrême dans votre vie de prière. Vous allez arrêter de prendre tout votre temps à mendier auprès de Dieu. Et vous allez prendre davantage de temps à avoir cette amitié avec Dieu, cette relation avec Dieu, et de le remercier sans cesse pour les choses merveilleuses qu'il accomplit. Et qui était en fait vraiment la vie de prière que Jésus avait, la relation que Jésus avait avec son Père. Et lorsque Jésus prenait toute la nuit dans la prière, il n'était pas en train là de mendier et de mendier à Dieu de faire quelque chose le lendemain. Il était en relation avec le Père. Et tout à coup, vous allez réaliser cette merveilleuse position. Vous allez vivre cette position. Vous allez devenir qui vous êtes en réalité, un enfant, un fils et une fille de Dieu. Et c'est un peu la même chose si y a des gens qui viennent chez vous ou s'il y a des enfants qui viennent chez vous. Et à toutes les fois que vous les voyez arriver, vous savez qu'ils viennent vous voir parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Alors, ils viennent toujours vers vous lorsqu'ils ont un besoin. Et peut-être que vous-même avez agi de cette manière envers votre Père céleste, mais vous ne serez plus ce type de personne. Mais vous serez plutôt un enfant ou une personne qui va vers Dieu avec quelque chose à lui donner, quelque chose à lui offrir. Peut-être une louange ou un témoignage. Et là, vous allez vraiment devenir des adorateurs de Dieu, et plutôt que des mendiants. Et ça, c'est l'effet que cet enseignement aura dans votre vie. Et vous le verrez s'accomplir. Alors, j'aimerais, dans le temps qui reste, partager avec vous comment est-ce que j'ai découvert cette vérité, cette réalité. Et comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas quelqu'un qui enseigne la théorie. Et lorsque j'ai commencé vraiment à scruter la parole de Dieu concernant ces sujets-là, alors j'avais déjà été enseigné et ce qu'on m'avait enseigné, c'est la même chose qu'on vous enseignait aussi. J'étais membre dans une église, j'étais fidèle, j'étais à l'église le plus souvent que je pouvais y être. Alors, je voulais accomplir tout ce que je pouvais faire dans l'église. J'accueillais les gens à l'entrée et parfois j'étais placier où j'allais aider les gens à trouver un siège. J'aidais à prendre l'offrande. Tout ce que le pasteur avait besoin, j'étais là parce que je voulais aider les gens, je voulais servir les Dieu. Alors, j'ai demandé à mon pasteur, est-ce que je pourrais enseigner une classe? Il a dit, oui, bien sûr. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu aimerais enseigner? Et je lui ai dit, j'aimerais enseigner sur les doctrines bibliques. Alors, nous avions un bon bouquin sur les doctrines bibliques et j'ai commencé à enseigner les gens les jeudis soirs. Et je n'étais pas très habitué à enseigner les autres. Alors, lorsque je prêchais, après peut-être 30 minutes, alors je perdais, j'avais une extinction de voix. Alors, je n'arrivais plus à parler. Et c'était très difficile et je devais boire beaucoup d'eau. Et cela était continuel. Le jeudi prochain, la même chose se produisait. Et l'autre jeudi, un frère est venu vers moi et il m'a dit, je me rends compte que ta voix, tu perds la voix quand tu prêches. J'ai dit, oui, malheureusement. Alors, il dit, en fait, je connais un moyen, je connais une méthode de vieux prêcheur, et cela va t'aider à prêcher plus longtemps. Alors, je ne savais pas quoi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Alors, il m'a dit, si tu prends un de ces comprimés-là, quand tu prêches, cela va t'aider à prêcher plus longtemps. Alors, je ne savais rien de tout ça. Et le nom de ces comprimés, cette médication, s'appelle Sudafed. Alors, j'ai pris le Sudafed. J'ai bu de l'eau et je suis allé prêcher. Et cette soirée-là, mon sujet était le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être après une trentaine de minutes, 40 minutes, et je disais aux gens à quel point ils avaient besoin d'être baptisés dans l'Esprit Saint, que c'est tellement important d'avoir en nous la puissance de Dieu. Et tout à coup, je ne ressentais plus le bout de mes doigts et je ne ressentais plus mes jambes. Alors je leur ai dit, il est ici! Il est ici! Je ressens l'onction! Tout le monde, levez-vous! Ils se sont levés. Alors, ils se sont tous alignés autour de la pièce. Et là, je suis allé pour imposer les mains à chacun et chacune d'elles. Et les gens tombaient par terre, partout. Et certains étaient même, des non-chrétiens étaient sauvés, ont été sauvés. D'autres ont été guéris. Et c'était la gloire! Et cette soirée-là, je suis allé chez moi. J'étais tellement heureux. Alors, le prochain jeudi, en fait, le dimanche, alors je devais donner faire mon rapport au pasteur. Et le pasteur a lu mon rapport et il a dit publiquement devant l'église, je ne sais pas ce qui se passe dans cette classe-là, mais nous avons eu tant de personnes guéries et nous avons eu tant de personnes sauvées. Et tant d'autres délivrés, et tellement d'autres ont redonné leur vie à Dieu, et tout le monde était content, et moi je me sentais très bien. Alors le prochain jeudi, ma classe a doublé en assistance. Tout le monde voulait voir qu'est-ce que Dieu faisait dans cette classe. Alors j'étais prêt à prêcher, alors je me suis souvenu à quel point le Sudafed m'avait aidé au niveau de la voix dans la semaine d'avant. Parce que j'ai pu prêcher tout le temps sans perdre la voix. Alors j'ai pris le comprimé, j'ai bu de l'eau et j'ai commencé à prêcher. Et mon sujet était que le parler en langue est le signe initial de l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit. Alors j'ai commencé à prêcher sur le don des langues, combien c'est important. Et comment le don des langues vraiment active la puissance qui est en nous. Et environ 30 minutes après le début de mon sermon, tout à coup, je ne ressentais plus mes mains. Je ne ressentais plus mes jambes. Et j'ai dit aux gens, il est revenu, il est revenu, le Saint-Esprit est ici. Tout le monde se lève. Tout le monde se met en ligne autour de la classe. Et je recommence à prier. Ah, oh, c'était merveilleux. Le dimanche suivant, je donne mon rapport au pasteur. Il lit le rapport devant la congrégation. Et le jeudi suivant, la classe est encore plus grande. Et le frère qui m'avait donné le Sudafed est venu me voir auparavant. Et il m'a dit, waouh, il dit, je constate que ta voix va beaucoup mieux. J'ai dit, oui, ça fonctionne très bien. Alors il a dit, oui, c'est vraiment que tu devais. Qui était bon pour toi, n'est-ce pas? Ça fonctionne? Alors il dit, je me demandais cependant si tu avais eu des effets secondaires. Alors j'ai dit, non, non, j'ai eu aucun effet secondaire. Mais il dit, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre ces comprimés-là. J'ai dit, ah bon? Alors il a dit, oui, parfois cette médication va affecter certaines gens. Il dit, parfois les gens ne peuvent plus ressentir leurs doigts. Parfois, ils ne ressentent plus certaines parties de leur corps, leurs jambes, par exemple. Et là, je suis là en train de l'écouter et réfléchir. Et je me suis souvenu ce qui s'était passé la semaine d'avant et l'autre. Et je le regarde. Et je lui dis, ah bon? Et je fais bien attention qu'il ne soupçonne rien de ce que je suis en train de penser, car je n'aurais jamais voulu dire à personne ce que je pensais à ce moment-là. Et ce soir-là, j'ai prêché un message très court. Et j'ai terminé mon message et je suis allé à la maison. Aussitôt que je suis arrivé chez moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, j'ai bel et bien ressenti quelque chose. Mais ce que j'ai ressenti, ce n'était pas ton esprit, c'était le Sudafed. Et pour moi, je croyais que c'était l'onction. Mais j'ai dit, pourtant, Seigneur, les gens ont bel et bien été guéris. Les gens ont bel et bien été délivrés, même sauvés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, tu étais loin tout ce temps-là, mais tu attendais d'avoir une sensation avant que tu agisses selon l'onction que tu as. Et lorsque tu as eu une sensation dans ton corps, c'était l'onction du Sudafed. Alors là, j'ai commencé à agir selon l'onction de Dieu qui est en moi. Et cela a fonctionné. Alors en réalité, c'était l'onction de Dieu qui est en moi qui avait été activée. Alors j'ai réellement pris conscience que l'onction de Dieu en moi est quelque chose de permanent et qui ne dépend pas d'une quelconque sensation pour être activé ou fonctionnel. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à agir en conséquence de cette vérité, mais sans le Sudafed. Et j'ai vu les mêmes résultats se produire. Alors l'histoire que je vous dis maintenant, c'est tout simplement pour un peu affirmer ce que je vous ai déjà dit et ce que nous avons vu dans la Bible concernant Samson, qu'il n'y avait aucune sensation d'associer avec l'onction. Alors maintenant, si vous aimeriez marcher dans l'onction dans laquelle je marche moi-même, alors vous pouvez aller à la pharmacie et en acheter une boîte. Alors l'onction va vous coûter 5,95 $. J'en ai pas ici sur ma table de livres. Mais par contre, si vous m'envoyez 29 $ par mois, alors je vais vous envoyer une boîte d'onction à chaque semaine. Mais vous devez comprendre dans tout cela que vous êtes loin de Dieu. Peu importe comment vous vous ressentez. Alors ce qui compte vraiment, c'est ce que la Bible affirme. Et tout ce que vous devez faire est de reconnaître que Dieu vit en vous et qu'il veut vivre à travers vous et qu'il veut aider les gens. Et vous avez l'autorité de Dieu et son habilité pour aller et faire le bien et d'aller guérir tous ceux qui sont opprimés par le diable. Amen. Alors, prenons une pause.